À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
Chers amis, allons vite. Bouclez vos valises, larguez les amarres. Mettant nos pas dans ceux de Jacques de la Cretelle, nous partons pour la Grèce. Vous avez déjà rencontré Jacques de la Cretelle. Vous avez lu sans doute Zilbermann, qui reçut le prix Femina en 1922, ou La Boniface, publiée en 1925. Vous le connaissez comme romancier et essayiste. Mais savez-vous que c'était aussi un grand voyageur? C'est le voyageur qui va maintenant nous guider. En 1930, en effet, il accomplit le voyage initiatique de Grèce et écrit, à son retour, Le demi-dieu ou le voyage de Grèce. C'est ce livre que nous aimerions vous faire découvrir et aimer. Fils du consul de France à Alexandrie, Jacques de la Cretelle passa une grande part de son enfance à l'étranger, au gré des postes diplomatiques occupés par son père. À la mort prématurée de celui-ci, il fut confié à son grand-père Pierre-Henri de la Cretelle, poète, ancien député et ami de Lamartine. Avant la Première Guerre mondiale, Jacques de la Cretelle avait fait un séjour à Cambridge. Envoyé sur le front de l'Argonne, il fut contraint, pour raison de santé, de regagner l'arrière et dès lors se consacra à la littérature. Romancier d'analyse, d'un naturel plutôt pessimiste, Jacques de la Cretelle n'hésitait pas à traiter de sujets fort osés pour l'époque, tels que l'antisémitisme dans Zilbermann ou l'amour sophique dans La Boniface. Mais son style reste toujours parfaitement et élégamment classique. C'est ce style que nous allons vous faire découvrir, celui d'un prosateur incomparable, d'un amoureux de la poésie, au style châtier, d'une lumineuse clarté, celui d'un homme hautement civilisé qui avait autant de cœur que d'esprit. Jacques de la Cretelle rejoint la Grèce après un séjour en Italie. En partant pour la Grèce, si je m'éloignais de Venise sans peine, je pensais avec attachement à d'autres villes d'Italie et à tous les charmes faciles de la vie italienne. Par quoi, me disais-je, remplacer cela en Grèce? Et comment le passage se fera-t-il? Quelles ombres faudra-t-il appeler pour animer ce froid visage qui, je le sais, ne se laisse pas prendre tout de suite? Et je me redisais certaines phrases de ceux que le voyage de Grèce a rebutés. Sans avouer sa déception, Chateaubriand n'a pas poussé là son hut de poitrine. On dirait qu'il admire une chose morte. En vain dans la Grèce, conclut-il, on veut se livrer aux illusions. La triste vérité vous poursuit. Lamartine a été accablé d'ennui sur cette terre qu'il compare à un vieux sépulcre dépouillé de ses ossements. Et l'on se rappelle le dédaigneux refus de Barès. Je ne trouvais pas d'agrément facile, sensuel, dans ce pays de la raison. Ces jugements, je me les suis expliqués ensuite par la difficulté qu'il y a pour un tempérament d'artiste à inventer en Grèce un thème d'admiration. Chez tout artiste, même le moins romantique, l'enthousiasme naît d'un sentiment qui porte sa marque, d'un motif qu'il découvre. Or, le génie grec n'a qu'une figure. Si complexe qu'il soit, il n'a rien de malléable. Et celui qui tente de le pénétrer par des chemins neufs ou de l'annexer à une sensibilité trop fière, celui-là se casse les dents. Et même chez le simple visiteur, plus respectueux et plus docile, le voyage de Grèce exige une disposition fort rare en notre temps, où la personnalité humaine obéit à des impulsions contradictoires et tranchées. On lui demande un équilibre constant entre l'esprit et les sens, une délicate administration du don de soi et du repliement. Il faut abstraire de l'art et des monuments antiques les intentions et les principes qu'ils expriment, et cependant, il ne faut jamais les séparer de leur site ni de l'air qui les baigne. La pure contemplation et la méditation logique doivent s'accorder sans cesse et se soutenir. Aride besogne, butin monotone, pour celui qui s'en ira seulement dénombrer des colonnes et mesurer des stylobates. Et cet autre qui cherche l'Ilissus et n'aperçoit qu'un ruisseau de ville capté entre des arbrisseaux défleuris, quelle déception l'attend! En Grèce, il faut à tout instant se rappeler ces deux coursiers par qui Platon nous dit mener. Il faut les tenir et les lancer d'une main égale. C'est le lieu du monde où, pour admirer, il est nécessaire d'être doué de raison et sujet aux passions, de savoir et d'imaginer tout ensemble. Et au seuil de ce livre, qui servira peut-être de guide à quelques-uns, je voudrais dire, avant de regarder ce qu'il y a de plus harmonieux sur la terre, fais l'harmonie en toi-même.
L'approche de la Grèce peut laisser insensible un homme qui sait se dominer et qui n'entend céder à rien de préconçu. Cependant, à mesure que la côte se lève devant ses yeux, il est forcé de remarquer quelque chose de nouveau. La lumière. Il ne dit pas tout de suite « la lumière », car ce qui le frappe d'abord, c'est l'apparence voilée de cette côte et en même temps la netteté de son contour sur le ciel. Il est tenté d'en attribuer les causes au sol. Il regarde attentivement les formes qui surgissent, mais de loin, les côtes de la Grèce paraissent souvent maigres et sèches, et il s'aperçoit bientôt que la rareté n'est pas là. La rareté est dans la qualité de l'air, à la fois pesant et diaphane, lumineux et velouté, qui intercepte les objets à la manière d'un verre extraordinairement pur. Tous les points de la Grèce ne sont pas également privilégiés. C'est en Attique, et mieux encore entre les collines d'Athènes, que le phénomène atteint sa cristallisation parfaite. Mais partout, il règne, partout, il accompagne le voyageur. Pour qui vient d'Italie, le contraste est saisissant. La terre qui se montre soudain est presque incolore. On croit la voir à travers une pluie qui neutraliserait certains effets trop vifs sans réduire les volumes. Quelquefois dans nos régions, à l'aube, la rosée donne le même aspect aux pentes des collines, mais ce n'est qu'un instant. Quant au ciel, il a perdu d'un coup sa somptuosité. Ce qui était un admirable fond de tableau devient un simple espace d'une limpidité infinie. Que les amateurs de couleurs et d'émotions vives trouvent là une raison de déchanter, il se peut. Mais pour ma part, comme le bateau s'était engagé dans le golfe de Patras, je regardais ce ciel et jouissais de cette lumière avec le sentiment d'absorber une nourriture supérieure. J'avais décidé de débarquer à Patras afin de visiter tout de suite Olympie. Quelqu'un qui connaît bien la Grèce m'avait conseillé de recueillir là ma première image du monde antique. La solitude du lieu vous rendra ce monde plus accessible, m'avait-on dit. Et puis la matière des temples étant moins belle qu'en Attique, il vaut mieux les voir d'abord. Après l'Acropole, les pierres d'Olympie vous sembleraient grises et de piètre valeur. C'est ainsi que mon premier contact avec la Grèce fut le port de Patras.
Il était plus de 10 heures quand le train arrêta à la station d'Olympie. La lune laissait voir une bourgade mal éclairée, silencieuse, sans chemin bien tracé et avec de grands platanes au tronc blanc. Comme j'ignorais l'emplacement des ruines, je les cherchais autour de moi tout en suivant le guide qui me menait à l'hôtel. Je ne voyais que de pauvres maisons, très basses, non pas endormis, car les portes et les fenêtres étaient ouvertes, mais sur le seuil desquelles se tenaient des formes qui ne bougeaient guère et ne parlaient qu'à petit bruit. J'avais rarement recueilli dans un lieu habité une semblable impression de silence et de paix. Après le dîner, je sortis de l'hôtel et me fis accompagner aux ruines. Je pris un sentier en pente, contournai un rang de cyprès pareil à un cordon de sentinelle foudroyés dans leur manteau noir, et pénétrait dans une espèce de vallon, plat et ensablé. C'était l'ancien lit du Cladéos, et c'était là une de ces pâles traînées que j'avais aperçues au premier plan du paysage. Puis, ayant franchi un pont, j'arrivais à l'entrée d'un champ boisé où je distinguais des blocs de pierre. C'était l'Altis, le bois sacré de la cité olympique. Et ces pierres étaient les restes de ce que tous les peuples réunis de la Grèce avaient conçu au cours d'un millénaire pour honorer le plus noblement leurs dieux et leurs héros. Je ne distinguais devant moi ni haute colonne, ni statue, rien même qui provoquât vraiment l'admiration, mais à voir ces pierres pâles, à demi renversées dans l'herbe, et ayant tout au plus la hauteur humaine, j'étais pénétré d'un sentiment d'une douceur indéfinissable, tel que si j'avais vu glisser, à quelques pas de moi, les ombres heureuses. Cependant, j'étais un peu honteux de ne pas atteindre en ce moment, si longuement attendu, à quelque chose de plus élevé. Je tâchais de ressaisir et de mettre debout de grandes scènes, mais tout s'évanouissait dans le seul sentiment d'une félicité inappréciable. Je n'étais pas déçu, charmé, par une foule d'idées dont le paysage nocturne me donnait l'esquisse. Je restais pris dans un rêve. Je n'avançais pas plus loin ce premier soir et me tins là longtemps. Et quand je quittais cet endroit, je pensais une rêverie d'idées. Peut-être est-ce cela, surtout, qu'il faut venir chercher en Grèce.
C'était pendant nos mois de juillet et d'août que les fêtes d'Olympie se célébraient. Et comme à chaque année était réservé un des quatre grands jeux, les fêtes revenaient tous les étés. Le site était tel qu'il apparaît ce matin devant mes yeux par une chaude matinée de septembre, à ceci près que le lit du Cladéos s'est modifié au cours des temps et que le mont Cronion, la sombre masse que j'ai aperçue hier soir et au pied de laquelle le vallon se creuse, a dû s'ébouler sous les secousses terrestres jusqu'à n'être plus qu'une colline. Mais c'était bien vers ce cirque sablonneux et brûlant que les foules accouraient pour sacrifier à leurs dieux et acclamer leurs athlètes. Même ciel sans nuages, même lumière brillante et douce. Le seul ombrage vient parfois d'un platane, et les feuilles de ce platane n'intercepte pas mieux le soleil que des morceaux de papier minces et secs. La rivière, réduite à rien en cette saison, gît presque sans courant. Jadis, pendant les fêtes, cette eau alimentait avec peine les visiteurs. Lucien rapporte qu'une année où la chaleur fut excessive, la soif fit parmi eux de cruels ravages. D'où vient que ce creux aride paraisse pourtant tout baigné de douceur? D'où vient que je retrouve, ce matin, devant ce paysage qui grésille sous la lumière, cette même impression de bonheur mystérieux que j'avais cru former par l'ombre de la nuit. Quelque temps avant la solennité, les Lydes envoyaient des héros par toute la Grèce afin d'annoncer l'ouverture des Jeux. C'est que ces Jeux avaient un caractère sacré. Pendant leur durée, les guerres étaient suspendues. On laissait même aux visiteurs le temps nécessaire pour aller à Olympie et en revenir. Là, les nations oubliaient leur rivalité dans l'exaltation des sentiments religieux et l'émulation des jeux. Et parfois, cette courte trêve d'un mois inaugurait une réconciliation plus durable qu'une inscription gravée aussitôt sur une colonne nous a rapportée. On connaît les exercices dont se composaient les jeux. À chacun de ces exercices, on faisait présider une divinité ou un héros. Il est probable que chaque peuplade de la Grèce avait une spécialité suivant ses mœurs et son degré de raffinement. Ainsi, les Athéniens ne brillèrent jamais dans les luttes corps à corps qu'ils affectaient de dédaigner. Et d'ailleurs, leur aristocratie, les Eupatrides, ne consentait à concourir que pour la course de chevaux et de chars. Cependant, quand on lit les relations qui nous ont été transmises sur les Jeux Éléens, on est frappé par l'équité et la fraternité qui présidaient au règlement d'Olympie. Il semble que les Grecs aient tenté de fonder là une société idéale où l'homme n'aurait eu que des passions exemplaires. On a vu que les querelles entre peuples devaient faire trêve. De même entre classes, car tous ceux qui concouraient au jeu étaient considérés comme égaux, tous y étaient admis pourvu qu'ils n'eussent pas commis une action déshonorante. Les femmes n'avaient pas le droit d'assister au jeu, et les peines les plus sévères les éloignaient de ces plaisirs nobles. Si l'une d'elles était surprise, ou même tentait de passer l'alphée au jour défendu, elle était précipitée du haut d'un rocher abrupt, le mont Typé. Pausanias raconte que la défense ne fut enfreinte qu'une seule fois. Une veuve, après avoir entraîné son fils elle-même en vue des jeux, prit le costume des maîtres d'exercice et le conduisit à Olympie. Le jeune homme fut vainqueur. Aussitôt, la mère ne put retenir sa joie. Enjambant la barrière et jetant son habit masculin, elle se fit reconnaître. Pausanias ajoute qu'on lui pardonna son crime, mais que depuis cette aventure, les maîtres d'exercice étaient tenus de paraître dévêtus. Enfin, le plus beau symbole des vertus régnant à Olympie est le rameau d'olivier, seule récompense des vainqueurs. Ces petites feuilles, vert-argent, venaient d'un arbre qui avait poussé dans l'Altis même, derrière le temple de Zeus, et que l'on nommait par excellence l'olivier aux belles couronnes. Je sais bien que l'athlète couronné recevait, une fois rentré dans sa cité, les récompenses les plus hautes, matérielles et morales, qu'il était exempté d'impôts, chanté par les poètes, magnifié par les sculpteurs, n'importe. À Olympie, le concours et le prix restaient insignes. D'ailleurs, cette gloire qu'il trouvait chez ses concitoyens comportait ensuite des devoirs. Ainsi, la récompense décernée par Sparte était à la hauteur de sa loi rigoureuse et utilitaire. À la première bataille, le vainqueur olympien avait l'honneur du poste qui exigeait le plus de bravoure. Mais ce qui nous confond, nous autres qui avons si bien prononcé le divorce entre la force du corps et les ressources de l'esprit, c'est de voir que ce cirque, cette foire d'athlètes, était en même temps un lieu où l'art se produisait sous toutes ses formes. Les poètes, les rhéteurs y venaient lire leurs œuvres. Hérodote, Platon eurent cet honneur, et Pindare y souleva un tel enthousiasme que le siège sur lequel il s'était assis fut placé, après sa mort, dans le grand temple parmi les statues des dieux.
Je découvre quelque chose que je n'avais jamais soupçonné et qui m'émeut par-dessus tout. La présence et la suprématie de l'homme. L'architecture des Grecs est à l'image d'une civilisation qui, la première de toutes, a donné la prééminence à la vie de l'homme et à son cerveau. Avant eux, le beau idéal avait toujours été ce qui dépasse la nature ou la raison humaine. L'art égyptien, on dirait l'histoire d'une planète étrangère qui se serait réfléchie sur la nôtre. Et les Égyptiens me font l'effet d'esclaves qui ont travaillé pour des Martiens, tout en ignorant leur sens aussi bien que leur conscience. Tandis que les Grecs, eux, et peut-être les premiers parmi les hommes, se sont connus. On les voit construire avec leur œil et avec leur âme. Maintenant que cette voie m'est ouverte, je me promène avec une rare allégresse d'esprit parmi les ruines d'Olympie. Pas une de ces pierres, me semble-t-il, où l'on ne puisse relever une proportion significative, pas une qui ne révèle par un trait naturel l'aboutissement d'une pensée. À chaque pas, une idée perce et mûrit. Tout à l'heure, le temple de Zeus avec sa terrasse nue en dos d'éléphant et ses énormes colonnes qui ont glissé tout autour me paraissaient un monstre patu, jeté là par hasard. Quelle sottise ! Dans toutes ces parties, j'aperçois à présent les souveraines restrictions de la raison. Pour rapprocher les monuments grecs jusqu'à l'essentiel, il importe moins, je le comprends, de parfaire mon savoir archéologique, de me rendre les mots « périptère » ou « triglyphe » familiers comme « colonnade » ou « frise », que d'avoir toujours en vue les mœurs et l'idéal antique. C'est charger les choses d'une autre poussière, me dira-t-on, et qui vaut moins encore que la poussière de l'archéologie. Non, car la morale des Grecs ramène sans cesse l'esprit à la nature et à la vie. Cette alliance du corps et de l'âme qui se scellait si heureusement à Olympie, aucun Grec, même le plus idéaliste, ne l'a combattue ou dénoncée. Trop subtils pour ne point distinguer les deux domaines, ils étaient trop bien équilibrés pour les opposer l'un à l'autre, et l'image parfaite était à leurs yeux celle qui les fondait le mieux ensemble. Et qu'on ne croit pas que juger l'architecture grecque comme un produit des mœurs et du raisonnement dessèche ses beautés et en donne une vision trop abstraite, ce serait chose impossible, car de même qu'ils tendaient vers l'épanouissement simultané de l'âme et du corps, les Grecs ont toujours cherché à unir le beau dans l'art avec le beau dans la nature. Favorisés par les émotions païennes, ils ont trouvé dans leur petite terre admirablement propice les sites les plus grands, les espaces les plus profonds, et c'est toujours là que nous les rencontrons. Art, logique, sentiment de la nature, le temple grec sauvegarde tout. Telle est la leçon que je me fais sur ce sol inconnu où je viens de mettre le pied. Mais si le sol était inconnu, il me semble que la leçon était toute prête en moi et attendait les choses qui me l'ont révélée. Ce matin, dans cette solitude d'Olympie, peuplée seulement de pierres, je retrouve d'autres moments de solitude et leurs thèmes les plus familiers. Cette composition intime de l'architecture grecque, comme elle tient de près au domaine que j'aurais voulu me créer. Car je ne mets point l'art plus haut que tout. Je n'ose m'attacher longuement aux problèmes de l'esprit et les seules émotions de la nature me sont d'insuffisantes jouissances. Mais un art qui offrirait le pendant ou le parallèle de certaines facultés raisonnables, sans jamais rompre avec la nature, m'a toujours paru être la région la plus élevée où l'esprit humain puisse se mouvoir. Ô vallon d'Olympie, que je te sais gré de cet accueil, que je te sais gré d'avoir si bien adopté mes soucis. À la fin de cette matinée, quand je m'éloigne de tes pierres, j'éprouve quelque chose de comparable à ce frisson qui vous saisit quand on reconnaît sur un beau visage qui se tait l'expression d'une émotion familière.
De l'autre côté de cette plaine, au-delà d'Olympie et du mont Cronion, on aperçoit un paysage très différent. Ce sont des montagnes ni très hautes ni très boisées, et pourtant sauvages et vertes. Qu'on imagine une nature grandiose et farouche, réduite et domestiquée comme par miracle. Elle rappellerait cette région, c'est l'Arcadie. Mais tandis que je me tourne tantôt vers les terres plates où circule l'Alphée, tantôt vers ces collines d'Arcadie, je me dis que je ne comprends pas encore la nature de la Grèce et n'arrive pas à en saisir le caractère. Elle change au moment où je crois la définir. La plaine se bosselle et devient roche. La roche, montagne ou bosquet. Et ces transformations se font sans heurts, suivant des secrets que je ne devine pas. Je suis resté longtemps sur cette colline et, quelques heures plus tard, quand je me suis assis sur la petite terrasse de l'hôtel, il faisait nuit noire. Noire aussi la silhouette du mont Cronion, hérissée par les dentelures des arbres jusqu'à son sommet. Et tout d'un coup, une lueur apparut derrière ce sommet, et la lune, d'une admirable couleur jaune de soufre, a monté rapidement vers le ciel. Ainsi Artémis, belle et hargneuse, devait sortir des taillis. Plus tard encore, j'ai voulu redescendre vers les ruines, car c'était le dernier soir que je passais à Olympie. Bien que la lune fût masquée alors et qu'il ne fît plus très clair, j'ai trouvé mon chemin sans tâtonner. J'apercevais au loin, de même que le premier soir, des traînées pâles et superposées, mais ce fond de paysage était devenu distinct pour mes yeux, comme les murs d'une chambre obscure où l'on a pensé longuement. Cette première nappe blanche était le sable du Cladéos. Cet autre était formé par les vestiges de l'Altis. Plus loin encore, l'étendue plate, où fut le stade. Enfin, les eaux de l'Alphée. Et par-dessus, les nébuleuses du ciel. Je pénétrai dans le champ d'Erwin. Un peu de vent agitait les aigrettes extrêmes des pins. Je me rappelais cette rêverie d'idées qui s'était imposée à mon esprit le soir de mon arrivée devant les pierres couchées. Je ne reniais pas cette façon de voir la Grèce, mais à présent, si les idées que je recueillais se fondaient encore aux sensibilités de la nuit, elles me semblaient participer d'une force stable. Je croyais écouter un poème dont toute la forme périssable serait tombée et où n'eût subsisté qu'une métrique divine. D'autres endroits en Grèce m'ont donné le sentiment du sublime. Nulle part je n'ai retrouvé Olympie et sa volupté supérieure.
Jacques de Lacretelle poursuit son voyage. Il revient à Athènes avant d'aller à Sounion. Cela est vrai. Athènes élève ma vision des choses. Dans les rues, les images passent du trivial au sublime. C'est une transmutation instantanée. Cet agent de police, qui debout sur un socle de bois au milieu d'un carrefour, signale au conducteur la voie libre, je lui verrai à Berlin ou à Londres les gestes d'un pantin. Là, il me fait penser aux statues antiques. C'est une réplique qui a gardé encore dans son index la tension de la foudre. Ces deux chauffeurs qui ont manqué d'accrocher leur voiture et se sont arrêtés côte à côte, je les regarde, je les écoute. Chacun est penché hors de son siège, le bras tendu, les doigts ramassés, et il interpelle son rival. « Ce n'est pas vraiment de la colère, me dis-je. Ils essaient de raisonner et de prouver. C'est la vieille passion de la dialectique. Je sais bien que j'ai tort de voir ainsi que je déforme sans doute ce qui est, mais je me demande avec pitié de quoi est fait l'homme à qui Athènes n'apporte pas ce don. Tout ce que j'ai appris de grand au cours de ma vie, tout ce que j'ai pensé de sage, tout ce que j'ai imaginé de beau, j'en retrouve ici la trace. Il n'est pas de loisirs, de vacances d'esprit, qui ne me fasse entrevoir quelque belle direction d'idées. Si je n'en profite pas, je n'accuse que moi et l'insuffisance humaine. »
Je me répétais cela quelques jours plus tard en faisant l'excursion du Cap Sounion. D'ordinaire, on ne tarde pas tant à y aller car le temple et le paysage sont considérés comme une des clés de l'Attique. Mais lors de mon premier séjour à Athènes, la visite projetée avait fondu avec un de ces terribles orages grecs qui défoncent les routes, et j'avais dû le remettre. La route, creusée de grosses ornières par endroits, se ressentait encore de l'orage, mais elle était sèche, poudreuse, et rappelait curieusement, aussi bien que le paysage environnant, nos chemins de Provence. Même coteaux, même champs de terre rougeâtre, pris sur une garrigue et rendus bons pour l'olivier et la vigne. En fait d'habitation, même petit mât ou simple cabanon, abrité par des figuiers qui, au passage, embaument l'air d'une odeur de cuir et de sucre. Cette ressemblance émeut. Après mon voyage en Grèce, j'ai regardé pensivement certains champs de la Provence. À l'approche de la mer, et bien que la descente vers la côte soit belle un instant, le spectacle devient moins attrayant car on traverse les mines de l'Orion. Des monticules incultes, une terre noircie, des champs de scories, un village sali par une usine, voilà ce que l'on a pendant une demi-heure, à droite et à gauche. Ensuite, la route passe dans une lande au bord de la mer, atteint un promontoire au sommet duquel elle grimpe. C'est le Cap Sounion. Pointe extrême de l'Attique, ce cap était bien connu dans l'Antiquité des navigateurs athéniens. Ils le cherchaient et le redoutaient, car s'il leur signalait la patrie, les vents y soufflaient généralement avec tant de force qu'il était difficile de le doubler. Ce fut sans doute pour ces raisons qu'on édifia, tout au bord de la falaise, un temple à Poséidon, sorte de phare et monument propitiatoire. Ce temple n'est plus représenté aujourd'hui que par 12 colonnes de marbre sur quelques degrés, mais cette rangée ébranlée derrière laquelle on aperçoit tantôt la mer et tantôt le ciel compose un des plus purs tableaux de la Grèce. Vers l'intérieur du pays, la minière du Laurion a disparu et l'on voit un massif de montagnes sauvages et pourtant harmonieuses. De chaque côté du cap, une petite baie ensablée, bordée d'arbres courts. Vers le sud, la mer et les pâles Cyclades. Panorama qui peut résumer la Grèce. Et au plus haut de la falaise, les restes du temple sont comme la fleur de ce site. Car cet édifice ne couronne pas le lieu. Il en jaillit, dirait-on, par une espèce d'élan nécessaire. L'art suprême de l'architecture grecque, c'est de n'avoir jamais l'air ajouté au paysage. Ces monuments si rigoureusement élaborés et pesés, on les dirait faits avec des instruments que la nature avait laissés sur le sol. La grande ouverture du paysage et la solitude font du Cap Sounion et de son temple l'endroit où l'on distingue peut-être le mieux la naissance de l'art grec. Ce temple prend ses racines tout autour de lui, dans l'arête des montagnes, dans le tronc des arbres, dans l'écume des vagues. Il évoque bien moins des images païennes qu'une large idée de naturalisme. Ses colonnes sveltes et droites tiennent aux formes de l'univers comme nos plus précieux raisonnements tiennent à notre instinct. J'étais là un jour que le vent, soufflant avec violence, purifiait le ciel et animait la mer. Je m'abritais derrière les colonnes dont le marbre, enlacé et fouetté depuis des siècles par l'air marin, n'a pas pris de patine et garde sous le soleil une blancheur de gel. Nul être humain n'était visible sur tout le promontoire. La mer était vide. La campagne à peine tachée au loin par quelques toits rouges. Auprès de ces débris insignes, dans ce paysage qui avait absorbé l'œuvre des civilisations, aucune image périssable, aucune idée petite n'avait de place. Le bout d'allumette, la bague de cigare, qui même dans les lieux sublimes vous donne l'heure, et rappelle le souvenir d'une médiocre jouissance, le vent les balayait furieusement. L'esprit refusait toute inspiration qui ne fût frappée d'éternité.
Jacques de La Cretelle découvre enfin Delphes. C'est presque la règle, dans un voyage en Grèce, de visiter Delphes en dernier lieu. Pourquoi ? Est-ce la longueur du trajet ? Ou bien considère-t-on cette visite comme une apothéose qui ne supporte ensuite aucune autre vision ? En tout cas, le principe est bon. Bien que les anciens Grecs fissent de cet endroit le centre de leur pays et même du monde, je crois qu'on s'engagerait mal pour comprendre la Grèce si l'on partait de là. Le site, le climat, aussi bien que sa place dans l'histoire, font de Delphes un lieu à part, reconnu par toute la Grèce antique, mais retranché d'elle. Le site est grandiose. Et par cela même, dépassant l'homme et la nature humaine, il n'a pas le caractère du paysage proprement grec. Le climat est celui d'une région montagneuse, tantôt brûlant, tantôt orageux et froid. La lumière, même quand le soleil luit, n'a aucunement cette légèreté si sensible dans les ciels voisins. Enfin, l'importance de Delphes, tout en étant lié au développement du monde hellénique, n'est pas due à la prospérité d'une province ou à l'accroissement d'un petit rameau de la race. Elle est l'effet d'une puissance religieuse. Et cela confère à l'endroit quelque chose de factice, qui est très particulier et se sent dans ses ruines. Le trajet en automobile d'Athènes à Delphes prend toute une journée, après un départ de bon matin. Dès que la route oblique vers le Parnasse, elle s'élève et entre dans une contrée boisée et sauvage, coupée de ravins. Rien de plus difficile à débrouiller que ce paysage. On s'élève lentement au-dessus de la plaine d'Ithéa, qui est le port de Delphes. cette plaine toute tapissée d'oliviers et d'un vert très doux. Elle se prolonge jusqu'au golfe, dont la vue s'agrandit peu à peu à mesure que l'on monte. Tout est séduisant de ce côté. Les proportions de cette ouverture, la ligne arrondie de la nappe d'eau et sa couleur pâle qui tranche avec les grands bras sombres des montagnes voisines. Et le spectacle au bord de la route est également attrayant. On traverse de petits villages, posés en palier sur le flanc de la montagne. Les habitations humbles et basses y sont peu nombreuses et semblent s'être timidement réunies sous des platanes géants. Des ânes, chargés de fourrage et qui trottinent aveuglément, signalent l'approche de chaque village. Mais au moment où la route, interrompant ses détours, pique vers l'intérieur, c'est une vision toute différente qui s'offre au regard. La vallée qui vient d'Itéa forme dans la montagne une entaille qui se resserre à mesure que l'on avance. De chaque côté de cette vallée, les parois rocheuses, toutes dénudées à leur sommet, sont taillées à pic. On a le sentiment d'un emprisonnement, d'une aventure sans issue pour la créature humaine. Il y a parfois de semblables décors dans les intrigues de nos cauchemars. Et l'espace d'un instant, l'angoisse nous étouffe. Les parois serrent de plus en plus la route et semblent même s'incliner. Le couloir de la vallée se rétrécit. Enfin, la voiture s'arrête. C'est Delphes.
Qu'il se soit trouvé des hommes pour se servir habilement de ce décor naturel et du prestige qu'il imposait, quoi d'étonnant ? Qu'une confrérie ambitieuse ait spéculé sur la crédulité humaine et, pour acquérir la direction des affaires nationales, qu'elle ait monté là, moitié pieusement, moitié par ruse, une grande entreprise religieuse, il n'y a pas lieu d'en être surpris. Mais qu'on n'aille pas croire que la pitié de Delphes, cette femme quasi folle qui a jeûné, puis mâché des feuilles de laurier, et qui laisse échapper des cris tandis qu'on la maintient au-dessus des vapeurs, donne une bonne image de la Grèce antique. Delphes ne représente pas plus la civilisation grecque que Rome ne représente la civilisation chrétienne. Pourtant, tous les peuples helléniques acceptaient la puissance de Delphes. Tous contribuaient à sa fortune et à son prestige. C'est vrai, mais il faut regarder la situation de ces villes rivales qui avaient souvent besoin d'un arbitre ou d'une alliance. Il faut compter aussi avec leur petite vanité qui les poussait à se faire connaître dans un grand lieu de pèlerinage. Enfin, tous ces sanctuaires religieux étaient, on le sait, d'attrayants rendez-vous de fêtes et de jeux. Mais au fond, ce qui a dû placer Delphes si haut dans l'esprit des Grecs, c'est que la vision de l'endroit est un prodige pour l'imagination. Ce peuple, par sa puissance imaginative et ses facilités poétiques, aimait à être crédule. Sa fidélité aux traditions mythologiques était une façon de se raconter éternellement des histoires qui l'enchantaient. On est surpris de voir un esprit aussi grave que Pausanias mettre dans son ouvrage la fiction sur le même plan que l'observation. C'était là, pour lui et pour les autres, une manière plus colorée, plus vivante, de voir et de décrire. C'était de l'excitation poétique. Je me figure que les pèlerins de Delphes, dans ce site qui n'avait nulle part son pendant, devant ces formes convulsées de la nature, se saoulaient d'images et de métaphores. Chaque caillou, chaque fissure du sol devait avoir son nom et sa fable. Ainsi, les deux hautes falaises qui dominent le sanctuaire et sur lesquelles, à midi, se concentrent les rayons du soleil, étaient nommées les roches phédriades, c'est-à-dire resplendissantes. L'une était la rousse, l'autre la flamboyante. Les Grecs vivaient ici un puissant poème et acceptaient, avec une ivresse d'artiste, cette forme menteuse de pensée. Je me demande même si l'intérêt qu'ils prenaient aux oracles ne venait pas en partie d'une autre qualité de leur esprit, la subtilité. Ces oracles, tournés en vers et dont le sens était caché ou transmis par allégorie, ils devaient les attendre avec une impatience de lettré. On les reprenait, on les discutait. C'était encore matière à broderie. Bref, toutes les formes de l'imagination étaient attirées vers le sanctuaire de l'Apollon pythien.
Du temple d'Apollon, qui était comme les appartements du dieu et occupait le centre de l'enceinte sacrée, il ne subsiste que les fondations. Et il a été impossible d'y retrouver la salle souterraine où s'opérait le grand mystère de la prophétie. Mais ces fondations ont permis de reconnaître les dimensions de l'édifice. Il était aussi grand que le Parthénon, ce qui semble à peine croyable quand on est en face du terrain et de ses difficultés. Le dallage n'était pas de marbre, toutefois il était fait de magnifiques blocs de pierre, et cette plateforme constitue aujourd'hui la terrasse la plus belle pour embrasser le paysage de Delphes. De là, il m'a été difficile de ne pas me réconcilier avec ce paysage, malgré mes prédilections secrètes pour des lignes plus sobres et mieux ordonnées. Ainsi, certains morceaux qui ne valent que par le lyrisme ont forcé parfois mon admiration. Et j'ai pensé aussi que Delphes complétait la terre grecque et la civilisation qu'elle a fait éclore. Le plus bel éloge que l'on puisse faire de l'ancien grec n'est pas de dire qu'il a été un exemplaire humain parfait, chose absurde, et qualité qui l'eût frappé d'insuffisance à certains égards, mais qu'il sentit, conçut, représenta tout l'univers, qu'il fut véritablement un microcosme. L'homme qui montait ici, qui agitait les mains avec enthousiasme devant les phédriades et écoutait l'oracle avec une terreur d'enfant, nous l'avons tous été à une heure de notre vie, et peut-être avons-nous dû, à ces crises, des redressements de la raison qui ont ensuite porté nos vues plus loin. Au-dessus du temple d'Apollon, on arrive au théâtre. Ce semble encore un miracle qu'on ait pu édifier une scène tant soit peu large sur la pente de cette colline. Sans doute cette scène et ses gradins n'ont pas l'ampleur ni la rectitude du théâtre d'Épidaure, mais qu'on imagine la portée des gestes et des paroles devant un tel fond sur des esprits qui s'abandonnaient consciemment à tous les délires de l'imagination. Le stade est plus haut encore que le théâtre, hors de l'enceinte sacrée, et l'on n'y parvient que par de mauvais sentiers assez raides. Il a pu être déblayé en entier, et ce rectangle allongé, tracé strictement et bordé d'un bout à l'autre de gradins réguliers, produit un effet extraordinaire parmi le chaos environnant. C'est pour l'œil, comme pour l'esprit, un retour à la mesure et au nombre. Jamais je n'ai joui de la beauté des lignes droites et des surfaces planes, comme dans ce stade construit au milieu des rochers.
Quand je me décidai à partir, l'ombre commençait à descendre et repliait sur la vallée les parois des montagnes. Je revins à travers les champs d'oliviers qui s'étendent sous la route dans ce que la gorge a de terrain praticable. La procession des ânes continuait vers le village. J'entendais le son régulier de leurs clochettes, car je ne sais pourquoi, dans la région de Delphes, et là seulement, les ânes portent à leur cou une clochette dont les grêles musiques vous suivent tout le jour. Lorsque j'arrivais devant l'hôtel, il faisait presque nuit, sauf en bas, du côté d'Itéa, où la nappe d'eau unie de la baie portait encore des reflets brillants. Je m'attardai sur la petite place. Elle était silencieuse, mais ce silence avait toutes sortes de tressaillements. Quand une ombre se croisait avec ma vision, je croyais assister à la préparation d'un drame. Je levai les yeux sur la façade et je vis que l'hôtel portait le nom d'Apollon pythien. Ce furent les clochettes des ânes qui m'éveillèrent le lendemain, bien avant la lumière. J'ouvris la fenêtre. Dans le jour gris, ils trottaient déjà vers la montagne, transportant les paysannes et leurs paniers. Le soleil n'avait pas encore paru et la vallée était sombre, mais une clarté naissante ouvrait le ciel du côté du Parnasse et je distinguais très loin, en face de moi, de grands oiseaux qui tournoyaient sur des sommets rocheux. Le farouche paysage de Delphes, surpris ainsi entre la conspiration de la nuit et le sacrement de la lumière, avait un aspect nouveau. Il n'avait rien perdu de sa grandeur, mais il était désarmé. Je pouvais, me semblait-il, m'emparer de ses secrets.
Jacques de La Cretelle, fut élu à l'Académie française le 12 novembre 1936, au fauteuil d'Henri de Régnier. Il était le troisième du nom à être admis sous la coupole. N'était-il pas, par sa femme il est vrai, une mademoiselle de Norroy, l'arrière-petit-fils de Jean Racine? Âgé de 48 ans, au moment de son élection à l'Académie, Jacques de La Cretelle devait en devenir le doyen, à la fois d'âge et d'élection. Puisqu'il y siégea fort assidûment pendant 48 ans. De haute taille, très soigné dans sa mine jusqu'en ses derniers jours, avec des manières parfaites, il était l'exemple même du gentilhomme de lettres. Et d'une certaine manière, il donnait le ton à la compagnie. Il est mort le 2 janvier 1985.